Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et oui, on vous avait promis une bonne nouvelle pour cette semaine, et c'est le cas, les gars. Bonne nouvelle. Effectivement, il faut savoir que pour ce début de semaine, il y a eu une frontière qui a été placée au niveau du cadre de la Messi. Et oui, parenthèse, on s'offre une petite parenthèse d'optimiste, comme avec trois avancées majeures, notamment dans le cadre de la médecine et de la découverte scientifique qui ouvre une nouvelle frontière pour la médecine. On a eu un accord ambitieux en faveur de la biodiversité, une lettre à l'espoir et à la croyance de nos jeunes potentiels. Et oui, car cette révolution s'accompagne d'un nouvel espoir contre les infections. Commençons par l'avancée majeure des chercheurs qui viennent de découvrir une nouvelle partie du système immunitaire humain, une découverte qui pourrait révolutionner le cadre de la médecine. En effet, alors qu'ils étudiaient simplement des systèmes de recyclage cellulaire, je dis simplement, mais voilà, ils étudiaient la complexité des systèmes de recyclage cellulaire, des scientifiques ont mis en lumière un réservoir inexploité d'agents antimicrobiens naturels. Alors, je m'explique un peu. Concrètement, ça signifie que notre propre corps produit des molécules capables de lutter contre les infections de manière plus efficace qu'on ne pensait déjà l'être. Et oui, pourquoi est-ce une révolution à ce titre ? Bah parce que, en somme, aujourd'hui, on est confronté à un problème de taille, c'est la résistance aux antibiotiques. Chaque année, des millions de personnes contractent des infections qui répondent plus aux traitements classiques. Et cette découverte pourrait ouvrir la voie sur des traitements personnalisés, plus efficaces et moins invasifs. On arrête les cachetons et on décide un peu plus de travailler sa santé personnelle. L'aspirine, une arme secrète contre le cancer aussi. Eh bien, sachez une chose, ce n'est pas tout. Une autre découverte a dû s'accompagner de ça. Qui également pourrait changer la façon dont nous luttons contre le cancer. Des chercheurs à l'université de Cambridge ont identifié un mécanisme par lequel l'aspirine empêche certains cancers de se propager. On savait déjà que les patients qui prenaient régulièrement de l'aspirine présentaient un risque réduit de métastase, mais le lien exact entre les deux restait flou. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que l'aspirine aide l'organisme à déclencher une attaque immunitaire à un moment clé et précis lorsque les cellules cancéreuses sont particulièrement vulnérables. En tout cas, si cette hypothèse est confirmée par de nouvelles recherches, cela pourrait mener à des traitements simples, sans complications et accessibles à tous pour prévenir la propagation des cancers du sein, de l'intestin ou encore même de la prostate. On n'aurait plus aucune limitation quant aux débouchés médicaux qu'on pourrait poser pour cela. Et oui, bien sûr, il ne faut pas se précipiter sur l'aspirine maintenant sans avis médical, car elle peut avoir aussi des effets secondaires. Mais cette découverte quand même nous permet d'avoir d'autres perspectives possibles, voire même passionnantes sur l'avenir. En tout cas, on a aussi un pas en avant, et oui, un petit pas pour l'homme, mais un grand pour les marsupiens. Non, je rigole, c'est pour la biodiversité. C'est l'accord du COP16. Passons maintenant. C'est une victoire vraiment environnementale qui a eu lieu avec le COPQ16 qui se tenait cette semaine à Rome, a abouti à un accord important. Les pays riches se sont engagés à mobiliser au moins 200 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour aider les pays en développement à protéger leur biodiversité et à la maintenir plus saine. Ce montant vise notamment à financer des projets de conservation, la restauration d'écosystèmes et la lutte contre la déforestation. C'est une avancée cruciale, surtout dans le contexte de la biodiversité monde qui est en train de dépérir actuellement. Et bah, certains experts estiment cependant que cet accord se reste insuffisant face à l'urgence de la situation. La disparition des espaces, La disparition des espèces et la destruction des habitats naturels continue à un rythme assez alarmant, mais malgré ce défi, ce financement marque une prise de conscience et un pas en avant vers un modèle plus durable. On l'espère en tout cas. En tout cas, le Danemark a décidé de bannir le téléphone des écoles, effectivement. La direction de l'Europe, on a une nouvelle initiative qui pourrait bien changer la vie des écoliers. Le Danemark a décidé d'interdire les téléphones portables dans les écoles et les clubs périscolaires. En effet, l'objectif est d'améliorer la concentration des élèves et encourager leur interaction sociale. Plusieurs pays avaient déjà adopté cette mesure similaire, comme les Pays-Bas ou la France. L'usage excessif des écrans est devenu une vraie préoccupation pour les spécialistes de l'éducation qui alertent sur les effets négatifs de l'apprentissage et à la santé mentale des enfants. Certaines mesures font débat, certains parents craignent que leur enfant ne puisse plus les contacter en cas d'urgence, tandis que d'autres estiment que c'est une excellente initiative pour les aider à se recentrer sur leurs études. Eh bien, qu'en pensez-vous ? Est-ce que, justement, cette découverte sur l'interdiction au téléphone pour les étudiants d'école vous semble fondée, juste ou pas ?
Je pense qu'on est toujours en hyper contact et hyper communication avec tout le monde. Donc, c'est pas nécessairement négatif de déconnecter un peu. Puis, je pense que les parents, avant le cellulaire, fonctionnaient très bien à pas être en contact avec leurs enfants pendant la journée scolaire et s'attendaient à ce que l'école les contacte si jamais il y avait quelque chose. Donc, je vois pas pourquoi ça serait différent maintenant.
C'est ça la question. C'est un vrai. En fait, ouais, même j'ai envie de poser une autre question. Désolé, j'ai posé une première question, mais en vrai, elle est pas intéressante. pour vous, c'est quoi le bon équilibre entre modernité et scolarité ? Entre utilisation de téléphone et éducation ? Bon, moi je pense en tout cas, que si t'apprends des choses avec ton téléphone, moi c'est ce que je dirais. Et c'est ce que j'avais lu ça, c'était cette idée, ce principe m'est venu de quelqu'un, j'ai oublié la citation, il faudra que je la retrouve, je la dirai peut-être pour l'émission de la semaine prochaine. On avait une étude qui avait démontré que l'apprentissage sur téléphone, sur certaines compétences intuitives ou même mécaniques, est plus facile avec un téléphone qu'à l'oral ou à la lecture. Donc moi, je trouve que personnellement... on peut avoir un bon équilibre entre téléphone et éducation, à la limite duquel où tu limites les temps d'utilisation et surtout que tu précises l'importance à l'enfant à quel point utiliser son téléphone, si tu l'utilises pour apprendre, il n'y a pas de problème. Tu vois?
Mais j'ai quand même un questionnement là-dessus parce que dans un sens, on veut... Les professeurs sont là pour une raison. Ils ont un plan de cours pour une raison qui a été établi par des professionnels. Mm-hmm. Le problème que je peux voir, en fait, un peu, c'est que si les étudiants vont chacun sur leur cellulaire et chacun décide un peu d'apprendre à leur façon, d'un, l'éducation ne sera pas égale partout parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas de cellulaire ou qui n'ont pas le droit d'avoir un cellulaire à l'école que leurs parents ne veulent pas. Puis ça fait aussi en sorte qu'ils veulent peut-être aller chercher sur des sources qui ne sont pas... valables, qui ne sont pas vêtées.
Quand je parlais du coup d'utilisation pour de l'apprentissage, c'est pour ça que ça m'attriste de ne pas avoir le nom de la chercheuse, mais c'est des compétences viables, c'est-à-dire que ce n'est pas sur de l'éducation comme du calcul mathématique ou autre, c'est vraiment l'utilisation de logiciels, de montage, ou même au-delà de ça, l'initiation à des activités physiques. Un enfant qui veut apprendre à danser, par exemple, il peut apprendre des mouvements, ou sur de la ressource informative.
Oui, mais là, on parle pas. Justement, je pense que c'est la différence qu'on fait. Là, on parle de.
Par exemple, ça parlerait plus sur des matières comme l'histoire, la philosophie ou autre. Où là, l'assiduité d'apprentissage, elle est plus pertinente pour les étudiants que par voie orale avec des professeurs.
Ben, ça dépend, parce que même si on regarde, par exemple, aux États-Unis, l'histoire n'est pas enseignée pareil partout. Donc, est-ce qu'on veut vraiment que les étudiants soient lâchés juste sur leur cellulaire avec des accès à des personnes comme Alex Jones qui pourraient leur dire que les Noirs, ils aimaient ça, l'esclavage?
Après, ça fait partie aussi du circuit c'est une contrepartie à mettre en place aussi sur ça. Si tu autorises l'accès ces ressources informatiques à un enfant, tu es bien aussi indirectement soumis à avoir une vérification de ces accès-là. Donc aussi, il faut qu'il y ait une pertinence aussi de la part des centres d'éducation. Mais en tout cas, si on ressent un peu le sujet sur l'utilisation des téléphones dans le cadre d'un cours, pendant le cours, je suis opposé à ça. Mais en parallèle, ça peut être pertinent sur certains types de cours, sur certaines méthodologies d'apprentissage. Mais au-delà de ça, je te dirais même qu'actuellement, peut-être on interdit les téléphones, mais pas l'IA. Je dirais même plus que ça, actuellement, une IA, pas possible. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais une IA en Californie du Nord, si je ne me trompe pas, elle va être professeur.
Ah ouais?
Ouais. Je vais vous retrouver cette ligne directive. Mais en tout cas, pour recentrer le sujet, je te dirais qu'actuellement, pour les déficits de concentration, je comprends la démarche et je suis tout à fait d'accord avec. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'on peut avoir toute bonne chose, en fait, toute chose optimisée. Ça se traduit par un équilibre entre apprentissage et entre modernité et ancienneté. Donc les systèmes d'éducation qu'on a actuellement sont très intéressants, très pertinents, mais peut-être que les pousser aussi avec des accès à la modernité sur des ressources informatives, ça peut être intéressant. Développer de l'esprit critique, aussi faire une éducation sur comment trouver de la bonne information sur le téléphone, ça peut être aussi pertinent et intéressant. Reste à voir comment on peut s'attendre, mais en tout cas, pour l'initiative principale qui est la concentration, le Danemark, je pense, a raison. Je ne sais pas si tu es d'accord
oui,
avec moi.
Oui, entièrement, oui.
Vis-à-vis de ça, j'avais aussi un autre point de vue que je voulais aborder. Est-ce que, selon vous, je ferai un parallèle avec l'accord du coup du COP16. On avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'il y avait une notation à l'époque sur... c'était une notation sur la pertinence et aussi le fait que certains pays étaient soumis à des influences monétaires, en tout cas à de la corruption. On avait eu ce note qui était parti. Et le détournement des fonds utilisés pour l'environnement avait été utilisé initialement pour ça. Donc, c'est-à-dire que les pays qui détournaient le plus d'argent qui était censé être utilisé pour ces fonds d'environnement était vu comme étant les plus corrompus. Est-ce que actuellement on peut s'attendre également que pour le COP16, eh ben il y ait aussi plusieurs gouvernements qui ne respectent pas ces 200 milliards de dollars et décident de les investir dans d'autres choses, peut-être de l'armement. Est-ce que vous pensez que le COP16 va être suffisant et qu'il faudrait peut-être renforcer et resserrer les situations des gouvernements? Ne serait-ce peut-être qu'avec une entité supérieure.
Ben c'est l'enjeu de tous les COP, en fait. Là, à chaque fois, le COP, que ce soit sur l'environnement ou sur quoi que ce soit d'autre, c'est toujours, on veut que les pays les plus riches et les plus influents payent, les pays les plus riches et les plus influents ne veulent pas payer parce qu'ils, pour X ou Y raison. Donc, c'est un peu toujours la bagarre entre les pays pauvres qui veulent que les pays plus riches payent pour que les pays plus pauvres se mettent à jour comme les pays plus riches. Donc, je pense que c'est un combat perpétuel depuis la première COP. Là. Je pense que c'est difficile de faire de la gestion à l'international pour forcer un pays ou un autre à faire quelque chose parce que la base d'un État, en fait, c'est qu'il est souverain là, dans ses décisions. Là. Donc, ça devient difficile à ce moment-là. Il n'y a pas de contexte international qui peut forcer un pays à faire quelque chose. Donc, ça... C'est difficile de dire qu'une autre entité pourrait, à ce moment-là, forcer les pays les plus riches à respecter ces engagements.
Ben, c'est pas les pays forcément les plus riches, c'est aussi à respecter tout simplement les engagements environnementaux qui sont desservis. On nous présente comme étant une obligation, on nous dit c'est important, il faut à tout prix que les pays respectent ces conditions, et c'est vrai, il y a de la vérité dans ça. Mais pourtant, il n'y a pas réellement d'actions qui sont mises en place.
Bienvenue dans le monde des COP.
Bah oui, mais c'est ça le truc.
Il n'y a pas forcément aussi d'action dans le sens où, après, si on regarde dans les relations nord-sud, c'est plus un peu les pays riches qui polluent un peu. Ben, en tout cas, quand on parle un peu de l'environnement et tout, c'est un peu plus eux qui polluent. Fait que, si c'est vrai que les demander de payer des grosses sommes, c'est pas évident. Pour les pays du Sud, mais...
Avant tout, la démarche, c'était surtout essentiellement de demander du coup à certains pays de s'engager à investir pour protéger la biodiversité de pays en développement. Donc, il y en a majoritairement en Afrique, mais il n'y en a pas totalement en Afrique également aussi. Il y a des pays en Asie, en Orient Moyen-Orient aussi, ou en Orient Occidental, qui aussi correspondent à ces critères. Juste, je suis désolé, mais je vais malheureusement devoir conclure parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est ça, des problèmes, c'est qu'on n'a pas souvent du temps avec ces émissions aussi intéressantes. Et oui, on en mangerait tous les matins. Mais malheureusement, il faut parfois faire un régime. Et c'est comme ça qu'on va vous laisser avec un peu de musique et un peu de pub. Car il faut bien payer le loyer, et ça part ici, les gars.